David Torchalat. Alors vous êtes donc pour cette deuxième édition des Fêtes du Livre. Très beau témoignage qu'on a entendu en première partie, hein. Mais je pense que la deuxième va être tout aussi intéressante.
Les témoignages de la deuxième partie de l'émission vont être aussi très beaux. Oui, nous sommes à la fête du livre chrétien, à l'intérieur du sanctuaire de Lourdes, face à la librairie de la grotte, cette magnifique librairie qui était le moulin de sa vie. Vous voyez, Bernadette a connu ce bâtiment, il a été transformé, c'était une ferme, et puis ensuite l'imprimerie du sanctuaire où était édité le journal de la grotte. Oui, parce qu'à l'époque il y avait un quotidien, voilà, chaque jour on éditait un journal, et puis voilà, avec le temps c'est transformé dans une belle librairie religieuse avec une équipe formidable qui me permet, voilà, l'occasion de les saluer à l'antenne, et qui ont organisé cette fête du livre. Et alors évidemment nous sommes à quelques jours de la fête de l'Assomption, ça sera vendredi. C'est vrai que la canicule fait qu'il faut organiser les choses de manière un peu différentes, hein. Les célébrations qui étaient prévues en plein air, eh bien, elles seront à l'intérieur de la basilique souterraine Saint-Pilice. Il faut savoir que quand même, les bâtisseurs du sanctuaire, déjà en 58 pour le centenaire des apparitions, et notamment Mgr Théas, avaient prévu de construire cette basilique pour mettre les pèlerins à l'abri. Alors peut-être que dans les années 50, ben voilà, on parlait peut-être de pluie, maintenant un peu plus de canicule. On peut tester peut-être aussi déjà le cas avant, mais voilà, au moins nous sommes tous abrité, alors il faut changer, mais voilà, la fête du livre est toujours là. Et alors j'ai comme deuxième invité le père Christophe Spéricène. Bonjour père.
Bonjour David, et bonjour aux auditrices et aux auditeurs
de Radio Présence.
De Radio Présence.
Ah ben oui, vous qui êtes originaire d'Alsace.
C'est
vous
l'autre bout. Oui.
Ah, c'est l'autre bout avec nos amis de RCF Alsace. Vous êtes délégué national de la pédagogie catéchétique et spécialisée à la conférence des évêques de France.
C'est ça.
Redites-nous exactement, pédagogie catéchétique spécialisée, voilà deux mots savants pour quelque chose de très simple, je crois.
Tout simplement, à la conférence des évêques de France, donc dans ce bâtiment qui se trouve à Paris, avenue de Breteuil, sommes une centaine de personnes à travailler donc au service des évêques et des diocèses de France pour aider à la mission pastorale. Et mon travail à moi consiste à aider justement les diocèses à pouvoir proposer des temps autour de la catéchèse, la formation des catéchistes, et particulièrement la formation des catéchistes qui accueillent les personnes en situation de handicap. Comment est-ce qu'on peut accompagner des enfants, des jeunes et des adultes handicapés à une préparation sacramentelle, au baptême, au premier pardon, à la confirmation, première des communions, et puis plus généralement, bien sûr, à une mise en contact, en relation avec le Christ, et donc une vie catéchétique, une vie chrétienne.
C'est quand même une mission qui n'est pas aisée de pouvoir transmettre, enseigner à des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pensez que l'Église est à la hauteur, ou il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire?
C'est une mission très belle, hein. C'est une mission qui est passionnante parce que, évidemment, quand on parle de handicap, on parle de différents handicaps. Il y a une multitude de handicaps, des handicaps qui se voient, d'autres qui ne se voient pas, certains invisibles, d'autres très visibles. Donc le spectre du handicap est très large. Évidemment, pour un travail comme le mien, il est essentiel d'être aidé et accompagné par d'autres personnes. Et donc il y a tout un réseau dans l'Église de France de personnes, que ce soit au niveau de ce que l'on appelle la PPH, la pastorale des personnes handicapées, ou la PCS, la pédagogie catéchétique spécialisée, ça c'est pour le jargon, dans les diocèses, donc qui sont au service de l'accompagnement des catéchistes et des personnes qui aident les personnes en situation de handicap à accéder à une vie sacramentelle, à une vie chrétienne, une vie d'église. Et évidemment, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire en termes d'inclusion, en termes d'accessibilité, en termes tout simplement de visibilité de ces personnes. Et je le redisais volontiers hier lors d'une conférence qui a été donnée ici à Lourdes, évidemment, tout ce qui tourne autour de la question du handicap, il ne s'agit pas de faire pour les personnes en situation de handicap, mais avec les personnes en situation de handicap. Et c'est là où nous avons encore beaucoup à faire.
Oui, c'est ça, c'est la nuance. Il ne faut pas que ce soit dans la totale verticalité, si j'ose dire. Mais le faire avec, c'est quand même ça, la difficulté de la mission.
C'est comme la pastorale des jeunes, hein. On a compris depuis quelques temps quand même que la pastorale des jeunes, il ne s'agit pas de faire pour les jeunes, mais avec les jeunes. Et c'est pareil pour les personnes en situation de handicap. Elles nous elles nous apportent énormément quand on sait leur permettre justement d'accéder à la parole quand c'est possible, à la gestuelle, etc., pour pouvoir exprimer leurs attentes, leur vécu, être à l'écoute et avancer ensemble sur un chemin de vie, un chemin de foi.
Vous avez dit, vous avez donné cette conférence ici dans le sanctuaire de Lourdes. Bah, c'est pas anodin de parler ici de catéchèse et de handicap. Oui. Comment vous avez vécu ce moment et comment vous le vivez encore dans ces jours de pèlerinage national?
C'est très très fort. Hein. À Lourdes, on est un peu, pardon pour l'expression, un peu dans une bulle. Dans une bulle parce que ici, effectivement, quand on entre, les fauteuils roulants ne manquent pas, les charrettes dont on a parlé au début de cette émission, même si elles vieillissantes, elles fonctionnent.
Ah, les voiturettes bleues de Lourdes.
Elles sont légion et puis je suis très admiratif depuis 2 jours de tous ces jeunes qui donnent une semaine sur leur congé d'été pour brancarder, véhiculer, etc. Ce que je veux dire, c'est que à Lourdes, évidemment, la présence des personnes en situation de handicap, l'accueil des personnes en situation de handicap, le prendre soin dont nous a tellement parlé le pape François durant son pontificat, il est là, il est fait. Il y a une expérience, il y a quelque chose de modélisant à Lourdes. Et évidemment, ce côté modélisant, ce serait super qu'il se retrouve dans nos paroisses et dans nos lieux d'activité ecclésiale. Et donc, je disais hier à la conférence que notre mission, c'est d'être un peu des, pardon pour le mot, hein, mais des grattes, des empêcheurs de tourner en rond. Enfin, voilà, c'est à nous, en fait, de rappeler que si les personnes en situation de handicap ne sont pas présentes dans nos communautés paroissiales, si on ne sait pas les accueillir, leur proposer un chemin de vie et de foi en complémentarité, eh bien, elles manquent et donc le corps de l'Église n'est pas au complet. Il manque, pour reprendre saint Paul, il manque des membres du corps. En l'occurrence, le corps souffrant, le corps qui a quelque chose à nous dire de ce que c'est que la colère, la souffrance, le côté pénible de la vie, mais aussi tout ce qui est de l'ordre du dépassement, tout ce qui est de l'ordre de la capacitation, tout ce qui est de l'ordre de la joie, dont le pape François nous parlait aussi avec tellement d'aisance.
Et c'est vrai que pour ça, ben, il faut se renseigner, il faut voir ce qui existe. Vous présentez ici plusieurs ouvrages, plusieurs réalisations dans cette fête du livre, des livrets prières, et puis également, ça c'est un talent que vous avez, vous êtes auteur, compositeur et interprète, parce que la musique, par la musique, vraiment, avec les personnes handicapées, on arrive à faire passer une émotion, quelque chose, peut-être un peu plus qu'avec les autres.
Oui, totalement. Je disais hier aussi, en commençant la conférence ici à Lourdes, qu'il y a quelque chose de modélisant, parce que les personnes en situation de handicap sont réellement prise en charge, on prend soin. Et il y a aussi quelque chose de modélisant de l'ordre de la beauté. C'est-à-dire que dès qu'on entre dans ce sanctuaire, on entend chanter, on entend la beauté de la musique, que ce soit l'orgue, que ce soit les instruments, le chant, polyphonique. Alors, avec les personnes en situation de handicap, moi je suis dans un centre aumônier, dans un centre qui a que des personnes en situation de handicap mental. Quand on chante une partition à l'unisson, ça chante à 7 voix. Mais c'est ça la beauté, justement.
C'est ça.
Et je crois beaucoup, beaucoup à ce canal qu'est le chant et la musique pour nous aider à entrer dans le mystère de la foi et de ce que le Christ nous donne à vivre. Les évangiles ne nous disent pas si le Seigneur aimait le chant, mais en tout cas on sait qu'il chantait les psaumes, et notamment le Jeudi Saint. Donc la musique et le chant est un canal essentiel. On appelle ça la voix de la beauté dans la théologie spirituelle. Et les personnes en situation de handicap souvent ont besoin de rituels. Et dans la catéchèse, dans la catéchétique, on utilise beaucoup les chants et la musique comme des rituels qui permettent d'entrer dans un moment de catéchèse, de couper un moment de catéchèse, de faire une transition, d'aller au cœur, C-O-E-U-R. Dans un cœur, c'est H-O-U-R.
C'est ça. Merci Père Christophe Spéricel d'être venu vous présenter notamment ce CD, cet album Pèlerin d'Espérance, les chants pour le jubilé avec les éditions Bayard Musique. Voilà un choix que vous avez composé, et puis aussi vos livrets prières. Voilà une occasion aussi de venir vous rencontrer.
Volontiers.
Et puis on prendra des nouvelles, parce que sur Radio Présence c'est un sujet et notamment à Lourdes qui nous intéresse beaucoup. Donc on aura l'occasion d'approfondir ce sujet-là et puis de pouvoir donner les clés. Mais on continue cette fête du livre. Merci à vous, Stéphane Périssen. Merci beaucoup. Et puis on accueille Michel Cole qui est là, qui vient se mettre en place. Alors là, c'est une joie aussi toute particulière de vous accueillir. Bonjour Michel, on
se partage. David, hein, bonjour.
Ah, mais ça fait longtemps qu'on avait envie de ce temps-là. Alors vous, la fête du livre, vous connaissez, hein, parce que vous étiez là déjà l'année dernière.
Ah oui, c'est toujours très sympathique. Et puis vraiment, je regardais, en écoutant, les personnes qui viennent ici feuilleter les livres, tout ça, c'est formidable. Je suis un amoureux des livres.
Vous êtes un amoureux des livres. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur, vous êtes amoureux des livres, amoureux de l'Église, de l'information religieuse.
Et amoureux de Lourdes.
Amoureux de Lourdes, c'est vrai. C'est
vraiment... Ça fait 40 ans que j'y viens.
Ah oui,
vous vous rendez compte ?
40 ans.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui vous plaît quand vous venez, vous, Michel Cole, à Lourdes ?
Le fleuve qui marche le long du Gave, le fleuve des foules.
Ah oui.
Je suis fasciné par ce fleuve ininterrompu qui bien avant moi a fasciné des observateurs et des auteurs. Je pense à Zola. Émile Zola était fasciné, et qui était pourtant athée, et qui était fasciné par cette foule qui ne s'arrête pas depuis les apparitions de Bernadette, moi ça me fascine. Et j'aime me laisser emporter, comme disait la chanson de Piaf, par la foule. J'aime la suivre, non pas par instinct grégaire, mais parce que je pense que là, on sent l'âme profonde du peuple de Dieu. Enfin, ça me touche beaucoup et je crois que c'est unique à Lourdes, ça.
Oui, et puis c'est aussi le défi du sanctuaire, parce que cette foule, en fait, elle est ininterrompue. Dès que les portes du sanctuaire s'ouvrent, bien, elle est là. Et jusqu'à la fermeture, et ben voilà, c'est aussi ça le défi de pouvoir accueillir, parce qu'ici, dans cette foule, et bien, il y a des amoureux comme vous, des amoureux de Lourdes, et puis il y a aussi des personnes qui viennent comme ça, attirées par la grotte et par les apparitions.
C'est ça l'originalité de Lourdes aussi, c'est que c'est un lieu ouvert. C'est un lieu ouvert à tout le monde. On ne demande à personne ici s'il est baptisé ou pas. Et les gens peuvent venir, regarder, venez et voyez. C'est cette phrase de l'Évangile, venez et voyez. Ici, les gens viennent et voient.
Vous voyez, vous faites écho à notre première partie. On avait l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, les hospitaliers qui disaient cette phrase de l'Évangile, venez et voyez. Alors, Michel Cole, vous êtes là dans le cadre du pèlerinage national. Vous allez faire une conférence sur les 100 jours de Léon XIV, parce que vous êtes un fin connaisseur. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un vaticaniste ?
Non, parce qu'un vaticaniste, normalement, c'est quelqu'un qui est accrédité à la salle de presse du Saint-Siège, vous savez ça, David, et que moi, je ne peux pas prétendre être vaticaniste. Il se trouve que on m'a accolé ce titre parce que les faits sont têtus. Ça fait quand même plus de 40 ans que je suis journaliste de l'information religieuse, donc ça fait un bail, mon cher ami. Et il se trouve que j'ai eu la chance, la grâce, l'honneur, enfin, chacun choisira le nom, le mot qu'il préfère, d'accompagner les trois pontificats de Jean-Paul II, de Benoît XVI et de François, et de les avoir rencontrés tous les trois. Donc c'est vrai, et d'avoir écrit un certain nombre de livres sur la papauté. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, on me considère comme tel, comme vaticaniste, mais non, je ne suis pas un vaticaniste. Disons que je suis un observateur, attentionné de ce qui se passe dans l'Église en général et en particulier de l'action des papes, quoi.
Vous vous présentez là pour cette fête du livre chrétien à Lourdes. François, le pape François, l'anticonformiste, bilan du pontificat qui a bousculé l'Église. Anticonformiste, pape François ? Vous y allez très fort.
Oui, j'y vais très fort, je ne sais pas, mais ce qui m'a agacé pendant tout ce pontificat qui a quand même duré 12 ans, c'est que un certain nombre d'observateurs, justement, ont essayé de coincer le pape François ou de lui mettre une étiquette, justement. Est-ce qu'il était conservateur, progressiste ? Est-ce qu'il était à droite, à gauche ? Révolutionnaire ou conservateur. Moi, je trouve que ces étiquetages sont réducteurs. Ils ne disent pas la réalité plus complexe d'une part de la personnalité du pape François et d'autre part de son pontificat. Ça me paraît être des clivages, si vous voulez, qui ne sont pas signifiants. Donc j'ai cherché, c'est vrai que depuis 12 ans, ce pape était assez fascinant quand même, c'est un personnage hors du commun. On se souvient de son apparition à la Loggia, tous les observateurs étaient un peu bluffés par... voilà. Mais j'ai essayé de savoir quelle était sa singularité profonde, quelle était sa personnalité si étonnante. Et il m'a semblé que c'était l'anticonformisme. Et j'ai été certifié dans cette idée-là par la lecture d'un livre-entretien qu'il a accordé au sociologue Dominique Volton. Où à un moment, Dominique Volton lui dit « Mais Saint-Père, c'est extraordinaire, vous êtes quand même au Vatican, vous êtes quand même inséré dans un protocole millénaire, enfin, vous avez des obligations, vous êtes dans un palais. Comment vous faites pour rester comme vous êtes, c'est vrai, authentique ?» Et il lui répond « Je suis libre comme un poisson dans l'eau, je suis libre spirituellement, je n'ai peur de rien. » Et si vous voulez, ça c'est une définition extraordinaire de la liberté spirituelle. C'est-à-dire qu'on soit pape ou qu'on ne soit pas pape, de toute façon, un baptisé, le jour où il a été baptisé, il reçoit un don, une grâce, la liberté spirituelle. C'est-à-dire cette capacité de témoigner avec ce qu'il est, avec ses talents, avec ses défauts aussi, parce qu'on en a tous, mais tel qu'on est, de témoigner de cette grâce d'être frère du Christ. C'est même incroyable. Et donc j'ai trouvé que c'était la clé pour moi d'entrer dans le personnage et dans le pontificat. Et c'est là où j'ai mieux compris ce pourquoi il avait pu enthousiasmer certains et défriser d'autres, si je puis dire, ou en tout cas irriter d'autres, parce qu'il n'allait pas dans le sens des sentiers battus, il allait plutôt dans l'école buissonnière. C'était plutôt « je veux rester profondément libre », à l'image d'ailleurs des chaussures qu'il a gardées, à l'image de
la maison Sainte-Marthe,
voilà, de tout ça, qui a un petit peu dérouté tout le monde. Voilà. Donc l'anticonformisme, c'est pas une marotte, c'est profond, c'est-à-dire c'est une authentique liberté spirituelle fondée sur une conviction profonde, je suis aimé du Seigneur, et cet amour du Seigneur ne me fait pas faire n'importe quoi, je suis responsable, mais je suis libre. Libre d'être responsable.
François, l'anticonformiste, 1936-2025, le bilan du pontificat qui a bousculé l'Église, avec une coédition des éditions Emmanuel et des éditions et Salvatore, c'est ce que vous présentez là. Vous allez également donner cette conférence sur les 100 jours de Léon XIV. Vous ne ferez pas de comparaison alors avec les deux papes.
Ah ben vous avez mis un mot. Alors les comparaisons sont intéressantes quand elles sont, je dirais, faites avec bienveillance et qu'elles sont faites dans le souci de chercher la vérité. Quand on fait des comparaisons pour opposer systématiquement, en l'occurrence les papes, ça je ne suis pas d'accord. Je pense que le petit jeu consistant à opposer les papes les uns aux autres est stérile, ne sert à rien, et j'en veux pour simple preuve que depuis Jean XXIII, tous les papes, sans aucune exception, qui se sont succédés, ont validé le Concile Vatican II. L'ont non seulement validé, mais l'ont porté, l'ont mis en œuvre, chacun avec son style, son tempérament et son rythme.
Qu'est-ce que vous pensez du pape Léon XIV ? En 100 jours, on se fait un avis.
Alors, on se fait un avis, mais qui n'est pas... Je dirais ça cet après-midi. Les 100 jours donnent une esquisse de l'esquisse du pontificat. Voilà. Donc il faut être patient. Il faut être patient comme l'est le pape François. Comme l'est le pape Léon, qui prend son temps pour connaître son nouveau job. Il prend son temps. Il ne se précipite pas. Pour connaître le peuple de Dieu dans l'Église universelle, c'est pas rien. Il a sans doute une très grande connaissance des réalités du monde catholique ayant été supérieur de la congrégation des Augustins, parce que la congrégation est mondiale. Néanmoins, quand vous vous retrouvez à la tête de l'Église catholique, plus d'un milliard d'êtres humains, dans des disparités géographiques, culturelles, excusez-moi, mais je crois qu'il faut prendre un peu de temps quand même pour savoir où on en est, s'informer. Bon. Et puis, je crois que c'est quelqu'un, c'est un petit point commun avec le pape François, qui est libre. C'est un fils de saint Augustin. C'est un augustinien. Et la liberté intérieure, c'est fondamental dans la spiritualité de saint Augustin. Donc ce n'est pas quelqu'un qui se fera dicter son comportement, ses décisions par les opinions, les sondages ou les pressions. Je crois que c'est un homme qui va rester profondément libre.
Ça plaît beaucoup à un journaliste d'information religieuse, cette liberté.
Ah, moi, ça me plaît beaucoup. Ouais, ça me plaît beaucoup. Et puis surtout, ça ne peut que nous faire du bien. Alors que c'est vrai, nous vivons dans un monde où on aurait plutôt tendance à se résigner à la guerre, à la peur de l'avenir, à beaucoup de problèmes, je dirais, sombres. Il est bon que le chef de l'Église catholique soit un homme qui nous apprenne par la manière lui-même d'exercer sa fonction, par ses discours, par sa façon d'être, par son style, qu'il nous rappelle que nous devons rester profondément libres spirituellement. C'est très important. Libre et de ne pas être simplement asservi par la doxa, l'opinion dominante, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, parce qu'on vit dans un monde de l'image. Donc je crois que c'est très très important que ce soit un pape religieux. François Letté était jésuite, celui-ci est augustinien, parce que ce sont des hommes qui ont une vie de prière, une vie intérieure très forte, qui leur donne cette capacité de résistance à l'attrait de la mode ou des dernières idées.
Donc il faut être résistant.
Donc ce que je voulais dire, c'est que les 100 jours, me semble-t-il, m'ont convaincu, en tout cas, d'une chose. Je vous disais tout à l'heure, tous les papes depuis Jean XXIII qui se sont succédés ont été des papes conciliaires. Alors celui-ci, s'il ne l'est pas, je demande à ce qu'on me tranche la main. Ouais. Le 10 mai, c'est passé un peu inaperçu. Le 10 mai, sa première rencontre avec les cardinaux qui venaient de les lire. Il leur fait un discours. Et dans ce discours, moi, ça m'a stupéfait, ça m'a surpris. Je crois qu'aucun de ses prédécesseurs ne l'a fait. Il demande aux cardinaux de faire allégeance aux intuitions du Concile Vatican II. Vous vous rendez compte ? De renouveler leur fidélité aux orientations du Concile. Et il décline les quatre grandes orientations du Concile Vatican II. Et il dit, moi, je le fais, je vous demande de le faire. C'est quand même... Donc, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Ce pape sera le digne successeur de tous ses prédécesseurs et il va continuer avec son style, à sa manière et dans des circonstances différentes, évidemment, puisque l'histoire avance, mais il va poursuivre l'œuvre du Concile Vatican II, dont je rappelle que le 8 décembre prochain, nous commémorons le 60e anniversaire. Et moi, je m'attends à un discours programmatique du pape Léon XIV ce jour-là.
Ah, ça c'est vrai, c'est possible, on le suivra. On arrive au terme de cette émission, Michel Coll, je suis obligé de vous poser cette dernière question. Je sais que vous n'avez pas la réponse, mais on attend.
Il va la poser quand même.
Oh, Léon XIV, on aimerait tellement le voir en France et à Lourdes. Est-ce que vous pensez que le pape François a blessé un peu la France, le fait de ne pas venir officiellement en France? Bien sûr qu'il est venu à Strasbourg.
Moi, je
ne
pense
Marseille,
plus, puis voilà, je pense que maintenant...
C'est derrière nous.
C'est derrière nous. Puis attendez, les deux derniers voyages qu'il a fait, c'est chez nous.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est chez nous.
Le dernier voyage, en tout cas, c'est la Corse.
C'est vrai, c'est la France.
Donc il a quand même honoré...
Voilà, un anticonformisme.
Je pense que le pape... J'ai lu une information, mais alors c'est pareil, là, c'est vraiment... aucune certitude. J'ai lu une information comme quoi le pape Léon souhaiterait venir à Lourdes. Ça, je l'ai lu.
Ah oui, mais évidemment, c'est une invitation.
Mais je ne veux pas créer de fausses espérances.
Mais écoutez, en tout cas, de l'espérance, on a au cœur. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Et puis, on se dit à bientôt, cher Philippe.
Et à bientôt, à lundi pour votre chronique. Et
puis, à lundi.
Et puis
déjà,
à vendredi pour, bien sûr, le prochain direct. On va vous faire vivre à partir de 10h, bien sûr, la grande messe de l'Assomption. Donc, en direct depuis la basilique Saint-Pédis, si tout, effectivement, a vu le temps et la chaleur. Merci infiniment. On a entendu quand même des bruits de caisses enregistreuses. Ça a l'air de fonctionner, la librairie. Donc,
beaucoup de monde. Venez avant qu'il manque des livres. Venez. Attention, ça part comme des petits.
Un grand merci, David.